Vous écoutez France Culture.
Sur les docks. Toute cette semaine, nous rediffusons des documentaires de Marie-Dominique Arrighi, laquelle produisit nombre d'émissions sur France Culture avant de rejoindre Libération et d'être rejointe à son tour par K, le crabe. C'est le titre du blog qu'elle tenait sur l'évolution de son cancer et que reprennent judicieusement les éditions Bleues Autour. En 1990, Marie-Dominique observait de son œil que ne voilait aucune concession un groupe de professeurs d'un lycée de banlieue qui passait de l'estrade à la scène. Elle leur faisait avouer que, devant les élèves, il leur arrivait d'avoir peur et que, devenus acteurs, ils se demandaient encore comment passer la rampe. Quand on est dans la vie, même si on désespère de beaucoup de choses, il n'y a pas d'autre issue que d'inventer forme sur forme. Vous noterez à votre tour à quelle forme radiophonique était parvenue Marie-Dominique Arrighi. Ce n'est pas feuilleté à l'infini, c'est monté serré, sans fanfreluche, c'est de la radio pour l'auditeur, comme son blog plus tard, qui ne se souciait pas d'abord de satisfaire ses sources. Marie-Dominique Arrighi ne cherchait pas la sympathie, mais la vérité.
Parfois, il y a des choses qui ne peuvent être dites et comprises que lorsqu'elles sont mises en scène, comme si la réalité devenait évidente par les apprêts de la fiction. C'est le parti pris qu'ont choisi quelques professeurs d'un lycée de la banlieue parisienne. Ils sont montés sur scène et soudain, on les voit autrement. Ils ne sont plus, aux yeux de leurs élèves, simplement l'incarnation d'une matière, Madame Philo, Monsieur Écho, Madame Math, Monsieur Français. Ils ne sont plus ces figures allégoriques, irréelles et énigmatiques. D'un coup, ils semblent devenus humains. Pourtant, à tout moment, dans la salle de classe, ils font la part du jeu. Ils mettent en scène leurs cours, pour leurs élèves, pour leur public. Marie-Dominique Arrighi et Bruno Sourcy ont rencontré ces drôles de profs au théâtre et dans leur salle de classe. C'est la comédie des profs.
Bon, maintenant, on va faire quelque chose de moins drôle. On va faire votre conseil de classe.
Eh bien, on va commencer le conseil de classe. Il n'y a pas d'élèves qui souhaitent assister au conseil, là?
Non.
Vous êtes les représentants et ceux qui allaient porter la bonne parole. Alors, Caroline, 8 en philosophie, début difficile, une seule note. En anglais, 7,7, insuffisant. 4,75 en mathématiques, c'est ça?
Oui.
L'ensemble paraît très moyen. Et beaucoup d'absences pour l'éducation physique.
Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs absences, excusez, certificat médical.
Donc c'est une élève qui est en difficulté. Les difficultés sont de quel ordre? Manque de base? Alors des lacunes à surmonter. Ne vous découragez pas. Et avec Christelle, 8,3 en histoire-géographie, il faut progresser. 9 en mathématiques, trop moyen, il faut réfléchir davantage et améliorer encore.
Il n'y a pas de doute que ça fait partie de la pièce.
C'est pas une partie intégrante du dialogue, comme il n'y a pas de dialogue ni rien.
C'est une première scène sans dialogue, une première scène monologue. Est-ce que ça n'arrive jamais, ça?
Moi, mais normalement.
Les premières scènes qui soient des monologues. Hein? Oui?
Il y a juste l'italien qui a 12,5. Avec assez bien, et l'éducation physique est assez plus. Donc par rapport au bac B, c'est tangent. Hein. Alors donc c'est en mathématiques son problème.
Oui, mais c'est pas. Elle est susceptible de progresser. Bon, elle n'a pas eu de chance, elle s'est un peu plantée à la dernière interro. Et bon, c'est quelque chose.
Moi, il m'est arrivé d'avoir une année, une classe de terminale qui m'a refusé. C'est-à-dire qu'il m'a refusé complètement. C'est-à-dire dès le début. J'ai senti que ça allait très mal se passer, et ça, effectivement, ça s'est très mal passé pendant toute l'année. Et je n'ai vraiment bavé, et là, c'était pas du trac, mais c'était pire que ça. C'était un sentiment d'échec, c'était vraiment un sentiment d'inutilité profonde. Et je crois que c'est la seule fois où ça m'est arrivé d'arriver devant la classe et de tourner les talons et de rentrer chez moi.
Tous les ans, il y a quand même une classe
où j'ai le tract avant d'aller en classe. Je crois que c'est la majorité. Il y a toujours la classe avec qui ça ne se passe pas très bien, avec qui on a toujours une petite appréhension avant de rentrer en classe. Et alors après, une fois qu'on y est, on se bat. Et même, je dirais pire, moi, je crois que les années où je n'ai pas de classe comme ça, je m'ennuie un peu. Il y a quelque chose, je ne sais pas, tu vois, il y a un défi. Et en même temps, j'ai peur. Hein. Non, non. Moi, je te jure, j'ai toujours une petite émotion à rentrer en classe.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre nouveau musée. Et vous prions d'excuser ce léger retard. Nous sommes ici, dans une authentique salle de classe du XXe siècle, récemment découverte par un groupe d'archéologues. C'est ici, semble-t-il, que le dernier prof aurait donné son dernier cours dans le cadre d'une institution aujourd'hui disparue, l'éducation nationale.
Bon, alors ici, il n'y a pas de doute, on va considérer que la première scène, c'est la première scène, elle fait partie de la pièce, mais elle est un peu spéciale. On a dit tout à l'heure que c'était une parade. Alors, sa fonction, la fonction traditionnelle d'une première scène dans une pièce, c'est quoi ?
Présentation.
Ben oui, hein, on appelle ça une scène d'exposition. Ça consiste à donner au spectateur le minimum d'informations indispensables pour qu'il comprenne de quoi il retourne. On appelle ça la scène d'exposition. Parce qu'on expose ces informations minimales.
Toujours.
Parce que les auteurs aiment bien jouer avec ça aussi.
La scène se passe au lycée de Ville-Génis, dans la banlieue parisienne. Lui, c'est Jean-Paul Rabret, agrégé de français. Face à lui, une vingtaine de spectateurs. Son rôle, capter les regards, retenir l'attention, faire passer un texte auprès de cette classe de première F3, des futurs électromécaniciens. Il faut séduire et convaincre. Au programme, Antigone. La représentation dure une heure, le temps d'un cours.
Alors, comment vous voyez cette scène d'exposition, c'est-à-dire quel personnage présente-t-il, dans quel ordre ? Et quelle place accorde-t-il à chacun ?
Quand il quitte la scène que constitue sa classe, Jean-Paul Rabret s'interroge sur le système éducatif. Mais un jour, lassé par les tracts vite froissés et les slogans usés, il a sauté le pas, avec d'autres profs du même lycée. Ils sont 12 ainsi à avoir décidé de passer pour de bon de l'estrade à la scène, pour y présenter leurs rêves et leurs malaises. Le spectacle s'intitule « Tableau noir ». Eux ont pris pour nom de scène « Les derniers des profs ». Et les voilà acteurs, cette fois-ci en vrai. Et ici, il leur faut également séduire, conquérir un public. Ils jouent, mais sans jouer tout à fait, car ils sont vraiment leurs personnages. Ils vivent leurs textes. Ils l'ont eux-mêmes écrit. Mais ils ne se contentent pas de restituer le réel, ils le transposent. Leur réalité devient alors fiction. Et ça passe. Le public est touché. Les élèves applaudissent. Pourtant, qu'y a-t-il donc de différent entre la représentation en cours et la représentation sur scène ? Où est le vrai visage de ces profs ? Sur le plateau du théâtre ou dans la salle de classe ? À la scène ou à la ville ? Côté cours ou côté jardin. Il semble que la frontière soit ténue et que se produise un va-et-vient entre les deux situations.
Comme ça, avec moi, vous allez apprendre la discipline. Vous allez voir des conseils de classe. Je convoquerai vos parents. C'est ainsi, messieurs, dames, que le professeur de 1950 tentait de rétablir la discipline dans sa classe. Rassurez-vous. On est sûr qu'à la fin du XXe siècle, l'atmosphère des cours était devenue beaucoup plus pacifique.
Oh, tant mieux! Et maintenant, si vous voulez bien me suivre, la visite organisée va pouvoir commencer.
Les jours où on est très en forme, on peut arriver avec son cours tout prêt, bien préparé, les prendre d'assaut et en avant pour 2 heures. Tout le monde travaille et ça peut très bien marcher. Ceci dit, il y a les jours où on est un peu moins motivé, peut-être, et où c'est plus difficile d'entraîner la classe. Mais bon, il faut faire un peu se faire violence aussi. Hein.
Je pense qu'il y a aussi l'exemple opposé, où vous arrivez très en forme avec un cours que vous avez bien préparé à fond, que vous avez aimé, vous avez pris du plaisir à préparer ça, et vous arrivez, et bien vous n'avez plus envie de le faire, parce que... On a fait le tour de la question, c'est tellement beau ce qu'on a préparé qu'on n'a plus envie de passer à l'enseignement. Vraiment, c'est vrai que c'est imprévisible. Il y a quelque chose d'état de grâce qui fait que... Alors ça peut être dû à la forme physique, à la bonne humeur intérieure, au bonheur intérieur, un tas de choses. Ça peut être dû à ce qu'on a en face aussi, s'il y a eu des regards, une sympathie. Et puis on ne sait pas, il y a quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'on arrive à faire sentir quelque chose qu'on aime parce qu'on ne sait pas.
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, je viens pas ni préparer ni pas préparer. J'ai l'impression que c'est au fur et à mesure du cours que ça vient ou ça vient pas. C'est-à-dire, l'enthousiasme vient parce que je redécouvre Descartes ou Pascal et puis que j'aime bien ça. Alors hop, ça passe comme ça.
Aujourd'hui, on explique le texte de Descartes, on le lit et à chaque alinéa, on essaye d'expliquer un petit peu. On prendra en note la prochaine fois. Hein. Première méditation. Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçue que, dès mes premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne pouvait être que fort douteux et incertain. De façon qu'il me fallait entreprendre sérieusement une fois en ma vie de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance et commencer tout de nouveau dès les fondements si je voulais établir quelque chose de ferme et constant dans les vraiment douter qu'on est ici en classe, en cours de philo, qu'on se voit les uns les autres et qu'on s'entend les uns les autres, faudrait vraiment devenir complètement fou. Hein? Alors la prof de philo, elle est venue cingler à nous raconter ça ou quoi? Autrement dit, chaque nuit, tous on rêve, et quand on rêve, oh non, ça n'a pas l'air aussi réel quand même. Ça n'a pas l'air aussi réel que ce qu'on est en train de vivre maintenant. Pourtant, à y réfléchir de plus près, au fond, quand on rêve, on est persuadé que c'est la réalité.
Marie-Arnaud, vous aviez choisi aujourd'hui en cours de philo un texte de Descartes sur le doute. Mm-hmm. C'est un texte à suspense, avec des étapes, des paliers de réflexion. Comment on arrive à faire passer un texte comme ça? Est-ce qu'il faut le mettre en scène?
Ben, vous avez vu, là, c'est la pensée elle-même qui se met en scène. Hein, parce que vraiment, c'est une aventure, ce texte de Descartes. C'est un peu... Cela dit, c'est vrai qu'il faut leur demander au préalable de jouer le jeu. C'est ce que je fais toujours. C'est-à-dire que s'ils restent extérieurs, ils ne peuvent pas s'impliquer dans cette démarche-là. Donc, ils n'en perçoivent pas l'intérêt et l'excitation, parce qu'il y a une excitation intellectuelle là-dedans. Mais je trouve qu'ils ont bien joué le jeu. Parce que, bon, puis je les ai préparés avant, je veux dire, ça arrive au milieu d'un cours, c'est... leur pensée est prête pour faire ça. Et puis, mais il faut absolument qu'ils jouent le jeu. Ça, on peut pas rester extérieur. D'une façon générale, on ne peut pas rester extérieur à la démarche philosophique, mais alors là, c'est encore plus vrai pour la démarche de Descartes.
Et vous aviez à jouer quel rôle, là?
C'est-à-dire que je les emmène là-dedans, c'est une espèce d'aventure, et puis moi, je les emmène, je les prends par la main, je les emmène. Et au fur et à mesure, je leur explique les choses qui peuvent rester un petit peu obscures pour que tout le monde suive, qu'il n'y en ait pas qui restent sur le bord. Mais au fond, c'est Descartes qui les emmène.
Je sais que quelquefois, au début du cours, je n'ose pas regarder vraiment les élèves dans les yeux et vraiment, de peur d'être un peu découragée. Et quand j'arrive à regarder vraiment et puis que je suis encore tranquille, ça va. Mais souvent, je fais mon cours, je regarde la masse et je ne regarde pas individuellement de peur de voir un regard qui s'ennuie ou de voir une tête qui se détourne, etc. Ça, c'est vrai. Quand on arrive à avoir le courage de les regarder, c'est parti.
Un jour, le cours aura été tellement bien, le moment aura été tellement fort que les élèves applaudiront.
à l'intercours, entr'acte, le point de vue des élèves, prof ou acteur.
De toute façon, quand on voit un professeur en classe, on le voit en tant que professeur. Quand on le voit au théâtre, on le voit plus en tant que
Il faut qu'à l'intérieur lui-même, il ait un côté acteur quand même, un professeur. Parce qu'il est devant une assemblée, c'est comme s'il jouait un rôle tous les jours.
C'est quelqu'un qui se donne. Autant en tant qu'acteur, autant en tant que prof, quoi, je veux dire, c'est pas un jeu d'être prof, mais qui se donne dans ce qu'il fait. Quoi.
Il y a une nécessité de convaincre, quand même. C'est-à-dire que ne pas regarder les élèves, ça veut dire faire cours à personne. Et en fait, moi, j'ai souvent l'impression que je fais cours, finalement, pas à une classe, parce qu'une classe, c'est trop uniforme, mais on fait cours à quelques élèves. Et précisément, ça peut être... Alors, tout dépend de la forme dans laquelle on arrive dans la classe, mais ça peut être l'élève le moins convaincu qu'on va avoir envie d'arracher, quoi. Si on est vraiment très en forme, c'est celui-là qu'on va essayer de convaincre. Et très souvent, quand on établit d'une certaine façon un dialogue un peu personnel ou un monologue qui s'adresse qu'à une ou deux personnes... ces gens-là sont tellement sollicités que, quelle que soit leur envie de comprendre, d'apprendre, ou, ils sont quasiment obligés de faire la démarche. Et ça va être le modèle, pratiquement le modèle d'élève qui va, par la compréhension qu'il peut manifester, mais par des signes qui sont des signes quasiment imperceptibles, des mouvements d'yeux, un intérêt qui s'éveille dans le regard, quelque chose qui marche, et ça va être finalement le témoin de la classe, sans qu'il le sache forcément.
Alors, comme c'est une fonction, il va définir sur 0 ouvert plus l'infini, on va avoir deux limites à calculer. Donc la première qu'on étudie, c'est limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, c'est une fonction, on est un petit peu mal à l'aise avec cette fonction parce que...
Parlons peu mais parlons bien, parlons d'argent. Pour le prix d'un seul nombre rationnel, combien avais-je voulu une fraction ? Pas du tout 10, 100, pas du tout, non. Pas 10, pas 100, pas 1000. Une infinité de fractions pour le prix d'un seul nombre rationnel acheté aujourd'hui ici même sur ce marché. Un prix défiant toute concurrence. Allez, laissez-vous tant. Madame, tu veux acheter des nombres réels, mais non, madame, c'est du snobisme. Pas du tout. Tout le monde sait bien, et vous comme moi, que tu les danses dans l'air. Et donc, entre deux nombres réels, il y a toujours. Un nombre rationnel que je vous vends aujourd'hui ici même sur ce marché, un prix défiant toute concurrence. Allez.
C'est vrai quand même qu'il y a un contraste entre le cours de mathématiques de la pièce et le cours que vous avez entendu ce matin en terminale D. C'est vrai que le langage mathématique est très codé, très très codé, et pour le comprendre, pour pouvoir faire des maths, il faut savoir le décodage, quoi. Il faut connaître le code. C'est là qu'est un peu le problème, je trouve. C'est un problème, mais on peut difficilement s'en passer aussi. C'est des mots extrêmement précis, très rigoureux. C'est difficile d'aller à côté. Ça ne supporte pas l'approximatif.
Vous avez le sentiment d'avoir en face de vous, quand vous faites cours, un public?
Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai tout à fait cette impression. Ils sont là, ils attendent quelque chose de vous, comme quelqu'un qui va au théâtre, effectivement, ou au cinéma. Ils attendent quelque chose. Ils savent qu'ils devront donner d'eux-mêmes, bien sûr. Mais ils attendent du professeur la traduction d'un langage difficile qu'on doit mettre à leur portée, en fait.
Si le discriminant est positif, il y a toujours deux solutions. Si le discriminant est nul, il n'y a qu'une seule solution. Et c'est comme ça.
La salle de classe comportait une estrade. Et sur l'estrade, un bureau. Et derrière le bureau, une chaise. Et sur la chaise, un professeur. Et derrière le professeur, un tableau noir ou vert. Parfois, le professeur se levait, descendait de son piédestal et circulait dans les deux ou trois travées formées par la succession des bureaux à deux places, rangés les uns derrière les autres. Il s'approchait des élèves, signalait du bout de la règle une faute d'orthographe, réprimandait les dissipés et revenait s'installer sur sa chaise, derrière son bureau, sur son estrade.
Ce temps est révolu. Bien qu'au cinéma et qu'à la télévision, la salle de classe soit toujours représentée ainsi. Aujourd'hui, si l'estrade subsiste, elle est bien souvent délaissée. Les profs préfèrent être de plein pied avec leurs élèves. Quant aux travées et aux pupitres, ils n'existent plus. De longues tables, collées les unes aux autres dans la longueur, les ont remplacées. Elles forment un bloc compact, rendant les élèves spatialement inaccessibles, ce qui complique la tâche du prof d'aujourd'hui. Comment se faire entendre? Comment passer la rampe? Comment occuper l'espace bien souvent exigu? Comment établir le contact? Plus que jamais, le voilà confronté à des problèmes techniques, précisément ceux que connaît l'acteur.
Moi, je sais qu'une expérience personnelle, au début, j'avais peur des élèves. J'avais peur des élèves, je restais un peu à l'abri derrière le bureau et je bougeais peu. Je me promenais sur l'estrade pour écrire au tableau et puis je rejoignais vite ma chaise et puis je me relevais et ça s'arrêtait là. Et puis, petit à petit, je suis descendue dans l'arène. Et j'ai tout de suite compris que les élèves aimaient beaucoup ça, parce que quand ils ont des exercices à faire, que je passe les voir individuellement, ce qui est possible quand on n'a pas trop d'élèves, évidemment, que je m'approche d'eux, que je leur parle directement même, que je leur touche le bras. Et ça, ils sont extrêmement sensibles à ça, et beaucoup plus réceptifs à ce qu'on leur dit tout près qu'à ce qu'on leur dit de là-bas.
Alors le premier rang, déjà, vous voyez, le premier rang, en fait, c'est le troisième. Ça fait partie. On pourrait prendre le problème par ce bout-là. Ma place, normalement, c'est là, devant le tableau, derrière le bureau, sur l'estrade. Mais en fait, il y a une espèce de culture lycéenne qui fait que, quand on est un type bien, un type à la redresse, on se met au dernier rang. Et par conséquent, quand il y a plus de place que d'élèves, ce qui est le cas ici, puisque la classe n'est pas très nombreuse, tous les élèves sont sur les bancs du fond. Et si le prof persiste à sa place, alors il y a un désert entre les élèves et lui. Et moi, je ne supporte pas ce désert. Donc, avec cette classe-là, je me suis installé là, voilà. Je me suis mis là, sur le côté, pour être près d'eux. Et tant pis, ben, quand j'ai besoin d'écrire au tableau, je fais 3 mètres, quoi. Je ne supporte pas d'avoir cette impression que... Cette impression qu'on me fuit, tout simplement, que les élèves se mettent au fond, je ne supporte pas. Et moi, je peux pas circuler, j'ai l'impression que la parole ne pénètre pas là, ce bloc compact. Et chaque fois que je peux essayer de casser ça, je le fais, mais ce n'est pas toujours possible. Hein. Ça arrive souvent que je fasse avec, tout simplement.
Et je me demande même si, quand on distribue les textes, et moi je donne beaucoup de textes, et quand il y a une masse comme ça, tu es obligé de faire passer le texte. Parce que tu ne peux même pas passer entre deux rangées. Tu ne peux pas aller voir un élève en particulier, tu ne passes pas, quoi. Et donc, tu fais passer le texte. Et il y a une espèce de nonchalance à faire passer le texte parce qu'on ne leur donne pas à eux directement. Et quand je leur donne à chacun individuellement un texte, c'est moi qui leur donne à eux quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu différent là. En tout cas, pour ce qui est de la gestuelle, alors là, on peut en parler, la gestuelle, quand tu es coincé devant le tableau, tu as un mètre carré, tu les tiens par la parole et puis c'est tout. Hein, si tu es...
C'est vrai que ça nous arrive à tous à un moment ou à un autre, de penser que tout est de la faute des élèves. Et les parents sûrement qui pensent que tout est de la faute des profs. Je les entends d'ici, les parents. Ah, si les profs étaient plus passionnés par ce qu'ils enseignent, s'ils étaient plus enthousiastes. L'enthousiasme, c'est communicatif. Ouais, c'est pas si simple. Moi, j'aime Don Quichotte et Gargantua. J'aime écrire des poèmes, j'aime les films en version originale. J'aime les descriptions dans les romans. Et pourtant, j'ai l'impression que plus j'essaie de montrer mes goûts à mes élèves, et plus ils me prennent pour un dinosaure, et moins ils ont envie de me ressembler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça va? Dans ce film, le cercle des poètes disparaît. Le prof monte sur la table. Hop, magique. Ses élèves se mettent à dire et écrire des poèmes. Mais dans ce collège chic, il n'y a pas de banlieusard, il n'y a pas de fils d'employé, il n'y a pas de fils de chômeur, il n'y a pas d'enfants d'immigrés, seulement des jeunes gens qui se savent d'avance bien intégrés à la société, à sa hiérarchie, et qui peuvent avoir envie de cultiver le non-conformisme, l'esprit critique, la révolte, la poésie. Mais mes élèves à moi, ils n'ont pas leur place réservée. Ils ont seulement envie de ressembler très fort aux images de la réussite que la publicité.
Les problèmes spécifiquement littéraires sont complètement étrangers à l'univers de ces élèves. Et bon, ben c'est effectivement le point le plus difficile et le plus douloureux de mon métier. Parce que j'aimerais, mon illusion, mon rêve, ça serait effectivement d'amener des jeunes à prendre en compte des problèmes qui sont des problèmes littéraires, artistiques. Et j'y arrive très difficilement, j'y arrive épisodiquement, ponctuellement. Et là encore, si je devais analyser les conditions dans lesquelles ça peut marcher parfois, c'est difficile parce qu'il y a, encore là un tas de paramètres difficiles à maîtriser, impossibles à maîtriser. Je crois qu'il faut faire un peu de démagogie, employer un vocabulaire de temps à autre, un vocabulaire un peu familier, voire vulgaire, voire provocateur. Il faut être capable de faire des rapprochements avec la vie politique, sociale, réelle, l'actualité. Et il faut avoir du souffle. C'est-à-dire, à un moment donné, avoir l'énergie pour s'enflammer un peu, pour faire du lyrisme. Et comme ça, on peut arriver quelques minutes, quoi. Hein, quelques minutes. Ça dure jamais plus de quelques minutes. Un intérêt réel de la classe collectivement pour le texte littéraire, quoi.
Bah oui, ça, il n'y a pas de doute. Un sur un crime. Tout d'un coup, vous me mettez un doute dans la tête. Comment ça? Oula, vous m'inquiétez beaucoup si vous me dites ça. Non. On peut pas faire n'importe quoi. Tout d'un coup, là, U prime, ça fait U, il n'y a pas de doute. Alors pour les primitives, je ne suis pas sûre que je vous ai donné la bonne chose. On ne doit pas pouvoir, on le fait par partie, ça. Bon, alors on le laisse, on le reverra plus tard, celui-là. On le reverra. Pas maintenant.
Je crois qu'il est très important d'avoir des failles. C'est presque une méthode pédagogique, disons, d'avoir des failles. Hein. Et en particulier en mathématiques, c'est quand même très spécial. Les élèves n'acceptent pas tellement que les professeurs aient des failles. Pour eux, alors c'est propre à la matière. Hein. Pour eux, les mathématiques, c'est quelque chose qui est fermé, une espèce de connaissance où on a accès totalement et d'emblée. Et certains élèves ont accès. Pour eux, c'est magique. Hein. Certains élèves ont accès à cette connaissance, d'autres pas. Et le professeur, lui, l'a entièrement. Et ils sont en général très inquiets quand j'essaie de chercher avec eux l'exercice et que j'écris sur le tableau toutes sortes de choses qui sont pas forcément, je sais pas où je vais. Quand je leur dis je sais pas où je vais, je suis comme vous, j'essaie d'aller quelque part, et ben en général ça va pas. Hein, y a une bonne partie qui est très inquiète et qui n'attend qu'une chose, c'est que j'écris la bonne réponse. Pour eux, c'est ça les perturbe en fait. Je crois qu'ils sont pas du tout sécurisés. Enfin, c'est propre aux mathématiques, hein, à ce niveau-là, et ça pose des problèmes parce que je pense que l'enseignement de n'importe quoi, c'est justement la recherche et c'est de montrer avec quels outils on peut chercher, avec quelles méthodes, et c'est extrêmement compliqué à faire passer.
Justement, je crois qu'il y a faille et faille. Quand on a la force intérieure, puis la sûreté de soi qui s'acquiert avec un certain, avec le temps, avec l'expérience, et dire je ne sais pas, je vais chercher, je vous donne un renseignement demain, et puis je ne sais, ou bien je ne sais pas tout, ça va très bien. Mais la vraie faille, c'est quand tu cafouilles, que tu n'as pas cette sécurité-là, que tu montres que tu ne sais pas, mais sans le montrer bien, avec aisance, que tu merdes, tu vois. C'est souvent affectif, c'est un malaise intérieur qui fait, puis plus tu sens que tu t'embrouilles, plus tu le fais mal, et plus tu le fais mal, plus c'est gâché. Ça, c'est la vraie faille.
Et voilà, ils étaient jeunes, ils étaient pleins d'espoir, ils caressaient les rêves les plus fous.
Un jour, le cours aura été tellement bien, le moment aura été tellement fort, que les élèves applaudiront.
Le trac, ça arrive le jour où on fait sa première rentrée. Là, c'est le trac. Bon, le jour où il y a l'inspecteur, il y a le trac aussi. Mais sinon, dans la vie quotidienne, enfin, moi, j'ai pas le trac, non. Il y a pas de sentiment là comparable à celui qu'on a au théâtre, quoi.
Quelquefois, et chaque année, et je crois que c'est pareil pour tout le monde, on a dans une classe un ou deux individus qui sont capables de foutre en l'air la classe. Et là, moi, c'est vrai que chaque année, alors, avant d'aller dans ce cours-là, bon, on se dit, bon, là, il y a une bagarre. Il y a une bagarre et il faut que je sois la plus forte, quoi. Donc avant, c'est comme si avant, je sais pas, une épreuve de sport, on se resserre là, on se concentre tout. Et puis il faut vraiment être prêt à tout et y compris d'ailleurs. Alors là, par exemple, les techniques de séduction peuvent tout à fait sûrement jouer parce qu'il faut pas forcément être agressif. C'est souvent le contraire. Il faut entourlouper le. Il faut le. Oui, c'est ça. Il faut l'embobiner. Bon on bricole à chaque fois. Hein. Il faut bricoler, mais il faut le mettre de notre côté. Mais ça c'est déplaisant hein, quand même. Oui, c'est déplaisant.
Alors à propos du bricolage, je crois qu'il y a une chose qui est claire, c'est qu'on travaille complètement sans filet. C'est-à-dire qu'on a absolument, on travaille seul. On est seul devant sa classe, on prépare seul son cours. On n'a jamais l'occasion de montrer ce qu'on fait à d'autres qui enseignent la même matière que soi. Et donc on est en permanence sur le fil du rasoir. On est seul, quoi. On est seul et on risque effectivement de se planter.
Moi, j'ai accepté de faire cette pièce de théâtre parce que justement, ça brisait un peu la solitude du professeur. Et que c'était enfin une manière de faire une œuvre collective avec des gens bon, que j'aime bien, hein, des amis. Ça apporte vraiment une grande joie de mener à bout quelque chose comme ça, complètement, avec des gens.
On est tous parfaitement conscients que c'est au tout premier cours que les choses vont se jouer. Et finalement, c'est comme au théâtre parce qu'on n'a qu'une seule représentation. Hein. Il faut que ça marche tout de suite ou pas. Si ça ne marche pas ce soir-là, bon, ben, tant pis. Hein. Le public, il ne sera pas là, ce ne sera pas le même une autre fois. Et là, donc, il faut tout gagner d'un coup. Et là, au premier cours, on a vraiment ce sentiment-là aussi. Il faut les emmener, il faut les embarquer avec nous pour toute l'année, dès le début. C'est peut-être ça qui fait qu'on a très peur. Et puis, c'est un public qui est sans aucune bienveillance. Hein. Au départ, ils ne nous connaissent pas. Comme le public du théâtre. Ils ne nous connaissent pas, ils sont là pour nous juger.
Ben moi, justement, je vais dire un peu des choses opposées. C'est-à-dire, moi, j'ai personnellement, j'entends dire beaucoup que tout se joue au début. Et moi, je ne crois pas, en fait. Je n'ai pas l'impression que ça se joue beaucoup au début. Au contraire, quelquefois, il peut y avoir des débuts très, très, très brillants, qui marchent très, très bien, et puis une espèce de désillusion après. Ou inversement. Et puis, c'est vrai que de toute façon, tout se joue, à chaque cours, tout se rejoue. C'est ça qui, je trouve, terrible. À chaque cours, on a l'impression qu'on peut tout perdre. C'est énorme.
Eh bien, qu'est-ce que vous foutez? C'est pas ce qu'on a dit! Je crie les slogans d'abord et vous répétez après moi!
C'est vrai, c'est pas possible, je suis tout seul!
Et nous, on est complètement ridicule, on doit faire semblant d'avoir peur parce que vous criez fort, on vous entend pas, alors c'est pas la peine.
Allez, on reprend tout, je crie les slogans d'abord et vous répétez après moi! D'accord? Allez! 2000 francs par mois! Condition de travail! Oh merde, faut chier!
C'est vrai que cette pièce est sortie des actions qui ont été menées dans notre lycée il y a 2 ans, au moment des revendications pour la revalorisation du métier. Et donc, pour nous, ça a été le sentiment de déception, de s'être battu pour, somme toute, peu de choses. Enfin, bien sûr, le bilan serait à nuancer, mais globalement, pour peu de choses. Et donc, on a eu envie de continuer à poser les questions qu'on avait commencé à poser. Et c'est comme ça que l'idée du théâtre est venue. On s'est dit, ben voilà, peut-être que sur la scène du théâtre, et en riant par le rire, peut-être qu'on peut continuer d'interpeller les gens qui nous entourent, nos collègues bien sûr, mais aussi les élèves, les parents, l'ensemble de la société, sur les questions qu'on pose et qui sont des vraies questions et sur lesquelles il n'y a pas grand monde qui réfléchit. Et un des effets les plus inattendus de la pièce, mais au fond très satisfaisant, c'est qu'elle fait beaucoup parler. Les gens, les spectateurs, à la fin de la représentation, viennent parler. Parler de la pièce, bien entendu, mais surtout parler du lycée, parler du métier d'enseignant, parler du rapport avec les élèves, parler du fond.
Oh, j'abandonne, il est vicieux.
Oh, mais non, mais c'est impossible. Combien j'ai de toi?
3 points d'indice.
Comment tu t'appelles?
Mon nom? Mais je suis pas boxeur, moi. Non, je suis prof. Prof de construction mécanique. Dans un lycée. Pourquoi je fais ce métier? Tiens, c'est une question qu'il m'a posée, lui. La première fois qu'il m'a inspecté.
Monsieur, vous avez un diplôme d'ingénieur, n'est-ce pas? Vous avez devant vous un brillant avenir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites dans l'enseignement?
Bizarre comme question, non? La dernière fois que j'ai vu, c'était en 81, juste après les élections. On croyait que c'était fini, cette mascarade, cette mise en scène, de trois quarts d'heure, tous les 7 ans. On était bien naïfs.
Le spectacle s'est fait, s'est construit de façon, la façon suivante. On est allé trouver un metteur en scène qui s'appelle Oscar Castro et on lui a dit on voudrait faire une pièce de théâtre sur nous. Nous, notre expérience personnelle de l'enseignement, c'est-à-dire nous 12, pas forcément parler de l'école en général, mais l'école à travers notre vécu. Et il nous a dit, alors allez-y, vous voulez dire quoi? Vous voulez parler par exemple de l'inspection? Eh bien allez-y, je vous donne 5 minutes, vous faites une impro sur l'inspection. Et tous les 12, on a dû faire une impro sur l'inspection.
Le combat de ce soir opposera Killing Inspector à Battling Professor. Dans la catégorie certifiée hors classe. En une rencontre de 10 rounds de 3 minutes.
À la suite de quoi, il a dit, voyons, je ne sais pas comment pourtant faire, on va essayer la boxe. Alors, il a essayé la boxe, il en a pris 2, puis 2 autres avec. Et puis, avec cette situation théâtrale qu'il nous a suggérée, on a tenté d'adapter un dialogue. Dans un premier temps, donc, on a amené notre matériel. Il nous faisait faire des impros, il nous suggérait une situation théâtrale, et nous, après, on écrivait.
Pas pour tout, hein, pour une première partie. Et puis, on ne sait pas pourquoi, on s'est trouvé bloqué, parce que le metteur en scène voulait qu'on ne s'exprimait pas assez personnellement, que c'était un peu un discours un peu trop collectif. Et il a essayé de nous faire parler plus précisément de notre vécu, et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, si bien qu'à la fin, en désespoir de cause, il a décidé de nous faire écrire des textes et qu'ensuite, il nous a réunis pour que chacun lise ses textes. Et à partir de ces textes, avec Marie, il en a fait un montage qui a constitué la deuxième partie du spectacle. Et une fois ce montage fait, parce qu'il voulait nous faire jouer aussi rapidement, parce qu'il sentait que s'il ne nous faisait pas jouer rapidement, peut-être qu'on on avait un problème de jouer, il nous a lancé pour la première.
Septembre. La rentrée. Des visages connus, souriants. David, Nathalie, Sébastien. Ils ont l'air contents de me revoir. Ça fait plaisir. Ça commence bien. Ils répondent. Ils se répondent. Ils écoutent. Ils s'écoutent. Mais je rêve. Je suis en train de vivre le cours idéal. Je suis le prof idéal. Dans une classe idéale. La sonnerie déjà. Au revoir, à demain. Je suis heureuse, la vie est belle, j'ai les ailes. Mardi après-midi, je leur ai préparé un texte génial. Manuel Vicente. L'humour espagnol, ils n'ont pas idée de ce que ça peut être. La Franco, l'Inquisition, ça, ils connaissent. Mais moi, j'ai plein d'autres choses à leur faire découvrir, à leur faire partager. J'entre. Je suis émue. J'ai peur, brusquement. J'ai passé 3 heures ce matin sur ces 20 lignes. Ils ont l'air fatigués. Ah oui. C'est la 6e heure de cours. Ça se voit.
Demain, je Est-ce que vous avez eu un moment l'impression, le sentiment d'avoir en face de vous, en Oscar Castro, un professeur de théâtre?
C'est vrai, Sébastien?
Moi, j'ai l'impression d'avoir un grand pédagogue, parce qu'il a réussi, sans le faire paraître, finalement, à ce que chacun trouve la place, finalement la bonne place dans la pièce, j'ai l'impression. Et sans le dire, il a réussi ça. Et c'est, je crois que c'est pas facile, parce qu'on n'était pas du tout acteur professionnel et qu'on savait pas trop quoi faire.
Oui, il nous a quand même fait faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire au début. Et de ce point de vue, c'est vrai que c'est assez extraordinaire quand même. Parce qu'au début, on était beaucoup plus coincés que maintenant. Et je trouve que c'est vrai que chacun a un rôle qui lui convient assez bien. Et chacun trouve un peu une identité dans ce rôle. Et avec le recul, maintenant, on se dit, mais il y a un an, jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça. Et ça, c'est magnifique quand même.
Plutôt qu'un professeur de théâtre, parce que je ne crois pas qu'il a été un professeur, il n'a jamais fait de cours. Moi, je dirais qu'il a été un maître dans la mesure où ce qu'il nous a appris sur le théâtre, il nous l'a appris en nous le faisant faire. Et ça, c'est encore beaucoup plus fort qu'un travail de professeur. Il n'a jamais fait de discours, jamais fait de théorie, mais il nous a fait faire les choses. Et là, on a appris.
C'est ça qui a été très effrayant. Parce qu'on est habitué au discours et on sait relativement répondre au discours. Mais tout d'un coup, nous dire « bon, ben, vas-y, hein, tu fais une impro », c'est déjà beaucoup plus difficile, parce que l'impro n'avait rien à voir avec les impros qu'on fait en cours, qui reposent quand même aussi beaucoup sur le discours. Et là, il fallait mettre en scène aussi le corps, il fallait que le corps fasse passer des émotions, ce à quoi on n'a pas tellement droit en cours, finalement. Et on s'est rendu compte qu'on s'était habitué à garder toutes ces émotions pour nous, ou bien alors pour le cercle des copains, mais que les exprimer comme ça, y compris devant le cercle des copains, c'était pas facile. Je crois que ça a été un peu difficile pour nous, et c'est ça qui nous a beaucoup soudés, de nous montrer avec nos limites, au fond, c'est ça.
C'est vrai que dans la salle des profs, on ne parle que d'élèves, en bien ou en mal. C'est vrai que certains profs détestent les élèves. Ils le leur rendent bien, d'ailleurs. Écoutez-les.
Quand ils vont aller bosser, j'espère qu'ils vont en baver.
Moi, j'aime pas le faire. Quand je vois un dans la rue, je change de tournoi.
C'est vrai que quelquefois... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai un jugement superficiel? Mais c'est vrai que quelquefois, quand on est tous regroupés, profs, comme ça, qu'on parle d'une certaine façon, moi, souvent, ça me déprime aussi, ce milieu enseignant. Et si on a fait une scène avec une salle de profs, c'est parce que souvent aussi, on a été déprimé par l'ambiance de la salle des profs. Et encore, on est un lycée extrêmement privilégié.
Moi, la dernière bonne dissertation que j'ai lue, c'était au moins il y a 10 ans.
Moi aussi, je me souviens de la plaisanterie favorite de mon prof de latin. Tiens, j'ai rencontré ce matin dans le métro un de mes anciens élèves. Il poinçonne les tickets. Il m'a fait penser à vous. Vous ne pouvez pas le saquer.
Ah oui, bah alors là, tu vois, moi, ce prof-là, je le comprends. Parce que honnêtement, la plupart de mes élèves, elles feraient mieux d'être shampouineuses.
Eh bien, moi, maintenant... Je me casse plus la tête. Le premier qui bouge, je le fous à la porte.
Vous savez ce que j'ai trouvé dans une copie de Terminal? L'auteur du bateau ivre. Rambo!
Ah. Oui, c'est bizarre. Tout se complique. Avant, c'était plus simple. On ne se posait pas tant de questions. Moi, j'aimais bien mon instituteur. Il arrivait à l'école en Vespa, il portait un vieux col.
Je crois qu'on touche davantage les enseignants que par un discours militant. J'ai l'impression.
Je crois surtout qu'on touche les gens, alors oui, qu'autrement...
C'est parce que justement, il y a l'émotion.
Autrement, on s'adresse à eux, on leur fait passer des idées, mais on ne les touche pas. Le travail des syndicats, c'est pas l'émotion, c'est la conviction. Et c'est bien, et c'est normal que ça soit ça, le travail des syndicats.
Et nous, on fait passer tout ça dans la pièce. Les profs qui viennent nous voir... Tout d'un coup voient leurs émotions exprimées là devant tout le monde, chose qui n'était pas forcément faite avec le discours syndical. Les élèves voient ça aussi, les parents d'élèves sentent peut-être beaucoup plus la dimension affective de leurs enfants, ils la connaissent, mais de la relation du prof, par exemple, à leurs enfants. Et là en effet, on les touche, c'est vrai qu'on touche parce qu'il y a l'émotion, et le rire, évidemment, et la dérision et tout ça.
Nous sommes toutes les maîtresses, nous savons bien la danser.
pendant le spectacle, du côté du public, du côté des élèves.
Vous avez Madame Lago qui est prof d'espagnol. C'est celle qui est en vert. Là, celle qui parle, c'est la prof de philo, Madame Arnaud. Elle est en rouge. Elle parle toujours. Après, vous avez une prof de maths en orange. Et là, en jaune, c'est Madame Langlois qui est professeure de français.
Moi, je veux dire, l'autre jour, samedi dernier, on a joué devant 50 élèves qui sont venus de Nogent-sur-Oise. Donc, des élèves qu'on ne connaissait pas du tout. C'était la première fois qu'on avait une telle quantité d'élèves par rapport à l'ensemble du public. Et moi, personnellement, j'ai éprouvé une émotion beaucoup plus forte de jouer devant ces élèves. Et j'ai senti quelque chose, un bonheur. Je me dis, au fond, c'est surtout devant des élèves, pas les miens, que j'ai envie de jouer. Parce que ceux-là, ils sont sidérés. Ils découvrent quelque chose qu'ils ignorent. Les profs qui viennent nous voir, bon, ils voient un miroir. On leur offre un miroir de leur vie, de leur vécu. Les parents, ils connaissent un peu moins déjà, mais quand même, ils ont un petit peu entendu parler. Et ces jeunes-là, je suis persuadée qu'ils sont sidérés de découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas. Ils croient qu'on a toujours été à l'âge où on est. Donc pour moi, le plaisir de jouer, ce que j'attends, ce que je souhaite, c'est jouer devant des millions d'élèves. Voilà.
On nous confisque le goût du risque au nom de notre avancement.
Dans notre groupe, je sais qu'il y a des gens qui, grâce à cette expérience du théâtre, se sont réinvestis dans leur propre métier, ont retrouvé une identité professionnelle valorisante. Enfin, moi, c'est un peu mon cas. C'est l'impression que j'ai, ce théâtre a valorisé mon métier maintenant, là où je suis.
Et ça, c'est vrai que maintenant, en cours, on va avoir l'impression d'avoir un être humain en face de nous. De toute façon, à partir de là, on va pouvoir l'aimer, le respecter. C'est important, je crois. Mais on s'aperçoit qu'un prof d'éco, ça peut être aussi autre chose, non? Ça peut être quelqu'un qui aime danser, qui aime chanter. C'est fabuleux aussi de voir ça, quand même.
Voir les principes, parce que nous, on voit souvent le prof machine qui n'a qu'une envie, c'est de terminer son programme. De toute façon, les élèves, ils sont fous. Ils sont là, on les a obligés. Et ils sont dans la salle par obligation. Et donc, nous, on a l'habitude de voir que cet aspect-là. C'est absolument faux. À présent, c'est vrai que ça nous a un peu ouvert l'esprit. Ça a ôté les préjugés pour revenir à ce que disait notre prof de philo. Et c'est vrai que c'est un complément culturel très important.
Et ce qui est super, si moi, c'est ce que, dans le cadre qu'on nous oblige, c'est-à-dire dans ce rapport prof-élève à une heure fixe, on va pouvoir enfin dégager autre chose qui viendra de nous-mêmes, seulement de nous-mêmes. C'est-à-dire que on va pouvoir recréer une atmosphère qui va être à nous. On va avoir un contact qui sera original avec le prof. En fait, on va être libre dans l'école. C'est ce qu'on désire tous.
À cause de ce spectacle-là.
Oui, avec ce spectacle-là, oui. Enfin, pour ma part, oui. Je les vois d'une manière tout à fait différente. Ils deviennent fabuleux pour moi. Et ce qui est super, c'est qu'on va les revoir. Maintenant, on va garder avec amour nos bulletins parce qu'on va avoir un autographe des stars. C'est super, non? On va pouvoir spéculer dessus maintenant. C'est original en plus, adapté à notre cas. Il n'y en a pas deux au monde.
D'espoir. Il caressait les rêves les plus fous.
Un jour, le cours aura été tellement bien, le moment aura été tellement fort, que les élèves applaudiront.
Mais hélas, affaiblie par trop d'unions consanguines répétées, l'espèce enseignante a fini par décliner. En fait, on est à peu près sûr qu'à la fin du XXe siècle, deux espèces disparurent totalement de la planète.
En les entendant jouer, parler, enseigner, ces 12 profs-là ne sont sûrement pas l'espèce en voie de disparition qu'ils ont choisi de mettre en scène. Sinon, il faudrait alors considérer ce spectacle comme l'ultime frémissement avant une mort inéluctable. On peut y voir plutôt un sursaut énergique pour se faire entendre, pour sortir de la routine et de l'indifférence, tapis dans certaines salles de classe. Car ces 12-là peuvent sembler atypiques. Quand ils vont au lycée, ils ne vont pas simplement au boulot. Et si la tragédie restait à dire ?
Bon, d'abord, la vie enseignante n'est pas du tout tragique. Après, je trouve que le mot tragédie est vraiment déplacé par rapport à... Bon, qu'il y a un malaise, c'est certain, mais de là, un peu le mot tragique, je trouve ça vraiment déplacé. Et d'autant plus que je pense qu'on n'a peut-être pas été assez méchant aussi par rapport au milieu des professeurs hein, et par rapport à nous aussi dans certaines situations. Moi, je crois qu'il reste à dire aussi un peu peut-être la médiocrité aussi du milieu enseignant. Enfin bon, ça reste à dire aussi. On le dit évasivement, on le dit plutôt... En le critiquant dans le monologue de Michel, mais peut-être qu'il y a quand même du vrai hein, dans ce que les gens ressentent par rapport aux professeurs.
Bon, alors, atypique, alors là, franchement, je ne comprends pas, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un prof typique, moi. Je voudrais bien savoir, déjà que les élèves nous voient comme une espèce de race un peu à part, qui est là pour leur diffuser de l'enseignement pendant un certain nombre d'heures par semaine, j'ai l'impression que peut-être la société nous voit aussi comme une espèce d'espèce particulière qui disparaît en ce moment, donc c'est un petit peu gênant parce qu'on ne saura pas quoi faire des gosses quand il n'y en aura plus, mais une espèce de bloc, le prof c'est le prof, quoi. Il est typé dès le départ. Je ne veux pas être typique ni atypique, je ne sais pas ce que c'est qu'un prof en fait.
Mais qu'est-ce que ce grand projet ?
80% d'une classe d'âge.
Au niveau bac.
En l'an 2000.
Ah, au niveau bac, le bac, quoi.
Le niveau, Coco. Pas le bac, le niveau.
En l'an 2000, t'en es.
80% d'une classe d'âge au niveau bac en l'an 2000. 80% d'une classe d'âge au niveau bac en l'an 2000. 80% d'une classe d'âge au niveau bac en l'an 2000.
Voilà un grand projet.
Ce qui nous gêne dans ce 80% d'une classe d'âge, c'est le côté, on ressent qu'il y a un côté quand même démagogique dans ce qui est dit, dans la mesure où on est effectivement pour qu'il y ait 80% ou 100% d'une classe d'âge au niveau du bac, mais que le discours du gouvernement, c'est de dire que eh bien, ces 80% ou ces 100% auront le métier qu'ils voudront parce qu'ils auront accédé au baccalauréat et que la société va changer ou je ne sais quoi au niveau de l'emploi et du chômage parce qu'ils auront le bac. On sait que c'est parfaitement faux et que de toutes les façons, on va retrouver les clivages à un moment ou à un autre au niveau de ces élèves-là et que ça n'est pas dit et que ça donne un espèce d'espoir à des jeunes et que les mouvements lycéens qui se produisent actuellement, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une certaine partie de la jeunesse qui sent un peu que c'est un peu un attrape-nigaud.
Oui, le drame aussi, c'est que moi j'ai l'impression que ce sont les profs qui vont en faire les frais de cet attrape-nigaud. C'est-à-dire que nous, on va devoir enseigner à des classes de plus en plus nombreuses, sous prétexte d'amener 80% d'une classe d'âge au niveau bac. Et moyennant quoi ? Ce ne sera pas un véritable enseignement parce qu'on n'en aura pas les moyens. On va être finalement... le lycée, ça va être un petit peu l'antichambre du chômage. Hein, ça l'est déjà. Ça va l'être encore plus. Et nous, on est là pour quoi, alors ? Pour les garder en attendant ? Pour cacher la misère ? Pour faire croire à tout le monde que... ben non, c'est pas tout de suite, c'est pas si grave que ça. Moi, je refuse complètement de faire ça.
Dans l'étau d'un passé sans avenir et un futur sans mémoire, notre présence mire dans son propre miroir.
La comédie des profs, avec dans le rôle des profs Marie Arnaud, Sylvain Cohen-Tanouji, Stéphane Cornu, Michel Lagarde, Monique Lacot, Jean-Paul Rabret et Michel Berthelot, Jean-Paul Cousin, Gérard Daguillon, Catherine Langlois, Guy Loridan, Patrice Wache.
Si l'on n'aimait plus nos enfants, là où s'érigent ceux qui dirigent dans cette partie de l'Occident.
Extrait de Tableau Noir, mise en scène d'Oscar Castro, musique de Anita Valero, chanson de Pierre Barou.
Alternative. Peut-être hâtive, si l'on n'aimait plus nos enfants, là où s'érigent ceux qui dirigent dans cette partie de l'Occident.
Ce documentaire de Marie-Dominique Arrighi, qui date de 1990, vous pouvez le réécouter, le commenter sur notre site. Nous suivrons la suite de ces aventures radiophoniques demain. Nous serons à Belleville telle qu'elle la voyait en 1995. Marie-Dominique Arrigui est morte en mars de cette année. Les éditions Bleu Autour viennent de publier le blog qu'elle tenait autour de son cancer, Cas Histoire de Crabe, que soit aussi remercié Manouchak Fachaï qui a remonté cette émission. Dans peu de minutes, il sera 18h, l'heure du journal de la rédaction de France Culture et d'abord la chronique d'Albert Jacquard.